said I was the lucky one when we were wild and free. But I'm still here trying to be someone. You made it all the way.
Universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Martin Guez, et à la une, les espoirs de l'extrême droite européenne.
Qui espère mettre la main sur la Saxe-Anhalt, région de l'Est de l'Allemagne, ce qui serait une première depuis l'après-guerre. En cas de victoire de l'AFD, dimanche, lors des élections régionales, nous serons en direct de Magdebourg avec Muriel Paradon dans un instant. Une extrême droite qui réunit ses troupes à Bari, en Italie, pour fêter le record de longévité de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement italien. Ou encore à Birmingham, au Royaume-Uni, à l'initiative de Réforme UK. Nous serons ensuite dans ce journal en Ukraine, où des secteurs cibles comme l'industrie pharmaceutique ont été justement pris pour cible, avant notre focus sur le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb, où la piraterie n'est jamais finie. De nouveaux actes ont été pointés en juillet et en août. Gros plan enfin sur ces tristes records climatiques, le phénomène El Niño à l'œuvre pour être le pire depuis 40 ans. Il devrait se prolonger en 2027, touchant notamment les côtes du Mozambique. Et puis on fera le bilan de l'agriculture française après un été marqué par les sécheresses, les incendies, les canicules. Les chiffres ne sont pas bons forcément et les agriculteurs sont inquiets.
L'AFD est donc à l'orée d'une grande première, la formation d'extrême droite allemande qui pourrait se retrouver à la tête d'une grande région de l'Est du pays.
À savoir la Saxe-Anhalt-Land de 2,5 millions d'habitants, où l'AFD caracole en tête des sondages avant les élections régionales de dimanche. Crédité de 41% d'intention de vote, seulement 23% pour la CDU, parti de droite conservatrice du chancelier Friedrich Merz, qui pourrait ressortir encore un peu plus fragilisé de cette élection. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en Allemagne. L'extrême droite à la tête d'une région, ça serait une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. La campagne électorale qui touche à sa fin avec deux rassemblements aujourd'hui, notamment celui de l'AFD à Magdebourg, la capitale régionale. Vous vous trouvez justement?
Oui, une ville d'ex-Allemagne de l'Est où tout paraît tranquille, peu de signes de cette campagne électorale dans les rues à part quelques affiches des candidats, et où l'AFD va organiser cet après-midi une grande fête des familles, la famille traditionnelle, un thème cher à l'extrême droite. L'AFD défend un programme radical, il l'assume, comme expulser tous les étrangers en situation irrégulière ou réhabiliter, une vision positive de l'Allemagne dans les manuels scolaires, et ça marche en grande partie grâce à la tête de liste du parti en Saxe-Anhalt, Ulrich Siegmund, que le magazine Der Spiegel a baptisé l'homme le plus dangereux d'Allemagne. 35 ans, physique de genre idéal, cet ancien vendeur de parfums d'ambiance, très à l'aise sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, a réussi à rallier beaucoup de sympathisants dans cette région rurale d'ex-Allemagne de l'Est, où les habitants se sentent délaissés ou se disent simplement déçus par les partis traditionnels.
Ambiance. Justement, la CDU, le parti conservateur du chancelier Friedrich Merz, qui tente aussi de rallier des électeurs aujourd'hui, ça se passera là aussi à Magdebourg.
Oui, la CDU, qui est en peine dans les sondages, organise un événement plus symbolique avec une distribution de saucisses curry. Le président sortant de la région, Sven Schulze, défend son bilan, notamment en matière économique. Alors l'enjeu du scrutin dimanche sera de savoir si l'AFD obtient une majorité absolue ou s'il y aura une coalition, mais personne ne veut gouverner avec l'extrême droite. En attendant, une partie de la population de Saxe-Anhalt s'inquiète d'un danger pour les valeurs démocratiques en cas de victoire de l'AFD. La société civile organisera demain un grand rassemblement à Magdebourg.
Et merci beaucoup Muriel Paradon, en direct de Magdebourg sur RFI, l'Allemagne, où le groupe automobile Volkswagen a acté hier soir la suppression de 100 000 postes d'ici 5 ans, soit 15% des effectifs du groupe, dont la moitié sur le territoire allemand. L'extrême droite, déjà à la fête en Italie, où la présidente du conseil Giorgia Meloni célèbre aujourd'hui son 1413e jour à la tête du gouvernement, record battu dans ce pays d'ordinaire pointé du doigt pour son instabilité politique. Son parti Fratelli d'Italia fêtera ça aujourd'hui dans les Pouilles, dans le sud-est de l'Italie, où des milliers de sympathisants sont attendus. Et puis l'actualité de l'extrême droite européenne décidément chargée ce vendredi, puisque le parti britannique anti-immigration Reform UK tient lui en ce moment son congrès annuel à Birmingham, la formation de Nigel Farage, qui recevra tout à l'heure un invité de marque, à savoir Jordan Bardella, président du Rassemblement National en France.
Dans le reste de l'actualité, Martin, Volodymyr Zelensky lui dit espérer une visite à Kiev des émissaires de Donald Trump.
Jared Kushner et Steve Witkoff attendus dans les prochains jours par le président ukrainien, pour qui il y a urgence à relancer la diplomatie américaine. Des émissaires qui se sont rendus à plusieurs reprises à Moscou ces derniers mois, mais jamais à Kiev depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Alors que l'Ukraine s'apprête à une nouvelle fin d'année difficile, Moscou ayant encore intensifié ses frappes après les attaques ukrainiennes ciblées sur les infrastructures énergétiques russes cet été. La Russie qui a visé cette semaine des entreprises clés, notamment un distributeur pharmaceutique essentiel en Ukraine. Reportage Emmanuel Chaz.
À Kiev, depuis plus d'une semaine, les frappes russes contre les centres de distribution médicaux, alimentaires ou encore postaux sont devenues quotidiennes. Pourtant, une alerte en cours n'empêche pas Svitlana d'aller faire ses courses. Cette informaticienne a bien remarqué quelques changements dans les rayons, mais elle relativise.
Je me demande toujours s'il va y avoir des pénuries de nourriture, de produits de première nécessité ou de matériaux de construction. Mais pour l'instant, ça ne se ressent pas particulièrement. On trouve de tout en rayon et si quelque chose vient à manquer dans un magasin, on le trouve dans un autre supermarché. Il y a donc un équilibre pour l'alimentation et les produits de première nécessité. On trouve du lait en poudre pasteurisé, de la lessive, de la crème. Il y a de tout en rayon.
De fait, pour l'instant, on ne peut pas parler de véritable pénurie dans les supermarchés, mais après chaque bombardement, certains produits viennent à manquer. Daria, étudiante, constate.
Mes proches sont inquiets. Moi, pas trop. Je pense que ça ira et que la logistique s'améliore.
Face à ces frappes, les autorités ont annoncé des prêts à taux préférentiel pour la reconstruction des entreprises les plus touchées, ainsi que de nouvelles stratégies de distribution. Mais le temps presse. Chaque jour, de nouveaux centres logistiques disparaissent sous les bombes russes. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
À cette heure-ci, son temps universel, la Corée du Sud propose son aide dans le détroit d'Ormuz.
Oui, Séoul qui envisagerait au conditionnel d'apporter sa contribution pour sécuriser la navigation, selon la présidence sud-coréenne. Même s'il n'y a pour l'instant pas de confirmation du gouvernement, ce serait une bonne nouvelle pour les États-Unis qui tentent depuis des mois de convaincre leurs alliés de participer militairement à la sécurité du détroit. Le vice-président américain J.D. Vance qui a lui assuré que le passage était presque revenu à la normale, alors que le trafic a dégringolé depuis le début de la guerre avec l'Iran le 28 février dernier. Et puis un autre détroit qui fait les gros titres ces dernières semaines, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, situé dans le golfe d'Aden, au large du Yémen. Le Yémen où plus de 80 personnes sont mortes dans des affrontements entre les forces gouvernementales et les Houthis pro-iraniens hier, accusés justement d'avoir lancé une offensive pour s'emparer des zones bordant le détroit. Un golfe de tous les dangers puisque la piraterie somalienne refait elle surface. 6 navires détournés depuis mi-avril, plus de 90 marins pris en otage. C'est l'objet du dossier de notre édition et c'est avec Nicolas Feldman. Bonjour Nicolas.
Bonjour Martin. Bonjour à tous.
Alors on l'a dit, le golfe d'Aden fragilisé côté yéménite est soumis à ces pirates de nouveau actifs côté somalien. Et pour avoir une vision plus large de la cartographie, eh bien vous vous êtes rendu dans l'ouest de la France où un navire vient de rentrer.
Oui, direction le Mika Center à Brest. Des officiers de la marine nationale scrutent les mers du globe. Des incidents qui sont suivis sur de grands écrans en temps réel, comme ce 17 juillet dernier lorsque le Hassana, un pétrolier sous pavillon tanzanien, est attaqué. Le capitaine de frégate Emmanuel est le commandant du Mika Center.
Le Hassana, vous aviez un navire qui naviguait sur le côté nord du golfe d'Aden et qui s'est fait surprendre par des skiffs armés qui sont montés à son bord, qui ont pris son contrôle. Et ce navire a été ensuite dérouté par les pirates qui sont venus le placer à l'est de la Corne de l'Afrique où ils peuvent rentrer dans des négociations avec le pays du pavillon pour essayer de récupérer l'argent qu'ils souhaitent obtenir.
Dès lors, la mission des Français, alerter les navires dans la zone et suivre avec leurs partenaires européens l'évolution de la situation.
Et un suivi qui a fait dire aux observateurs, Nicolas, que les méthodes des pirates ont bien changé.
Oui, plus mobile, plus agile, les pirates opèrent désormais plus loin des côtes somaliennes, constate le commandant du Mika Center.
Vous avez une évolution avec des tentatives d'arraisonnement qui ont eu lieu il y a quelques mois, fin 2025, où ils allaient plutôt toucher les bateaux de pêche, les petits bateaux côtiers, etc., pour s'en servir potentiellement, suivant notre analyse, comme ensuite bateau-mer et aller plus loin. Et on a vu, dès le début de l'année 2026, qu'ils commençaient à s'intéresser à des bâtiments un petit peu plus lourds, des cargos, des vraquiers, etc., qui leur permettent d'évoluer dans leur méthode.
Alors, on l'entend, les méthodes évoluent. Résultat, on le disait, 6 navires ont été détournés depuis la mi-avril. Comment s'explique cette résurgence de la piraterie, Nicolas ?
Il y a d'abord la situation très fragile dans le Puntland, au nord-est de la Somalie, avec de la pauvreté, une instabilité politique. Mais les pirates exploitent surtout dans la région une forme de vide sécuritaire. C'est ce qu'explique le géographe François Guizio, chercheur au CNRS.
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le nombre de missions se multipliant du côté d'Ormuz, ou alors ailleurs en mer Rouge, finalement ça laisse un vide tactique et stratégique. Et donc mécaniquement, les pirates ont de nouvelles proies, et ça fait des bateaux détournés, des otages, etc.
Face à cette nouvelle donne, les marines réagissent. L'un des 6 navires détournés, le Latuf, capturé à la mi-août, a été libéré la semaine dernière après une opération militaire de 10 jours menée conjointement par la Turquie et la Somalie.
Merci beaucoup Nicolas Feldman. Vous signez ce matin notre dossier de la rédaction.
À Pékin, la Chine, elle poursuit sa construction de nouvelles îles artificielles.
Ils viennent s'ajouter à la vingtaine d'avant-postes chinois en mer de Chine méridionale, où la grande muraille de sable. Already lost, no. The more I stare.
Il pago è pronto per te.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
bord de tes glaires, je te dirai quelle vie tu mènes. Les lendemains de cuite, l'été déjà la veille, je pratique mes rituels. J'ai accouché de ce truc comme mon mari, les phalanges et les murs. Projet mort-né d'un porné, je vais pas m'arranger, c'est sûr. C'est pour ceux-là qui croivent qu'un MC ne manie pas la langue, ne parle que de sa bite et résiste au feu comme la salamandre. Même si j'ai les pieds sur terre, je suis souvent foncé mon pote et je rêve pas d'une carrière où je dois continuellement remonter mon froc. Je voulais tout faire, texte instru, déjà 10 ans de plus. Mais bon, je me suis juré de pas être ce porc qui se cavalerie dans le luxe. Pas de folklore, alors remballe ton excédent de fierté. Crois-moi si tu jures par l'imagerie, je ne pourrais que t'emmerder. J'ai mes CD fétiches de Renault à Jedi Mind Tricks. Je fais ma zig de défaitiste sans frime, ni fait d'armes factices. J'oublierai pas les claques, les gros sons qui manquaient marche à 10. Y aurais-je goûté si j'avais su que ça rendait barge à vie. Déjà 24 piges, j'attends même plus que les cloisons s'ouvrent. Dégâts par la tise, on se façonne des mémoires de poissons rouges. Je vais faire que ça, cracher mon argot de manière mécanique. Sale caractère, que personne se mette en travers de mes pratiques. On s'est démerdé tout seul pour cadencer nos flots. Avancer dans le son, devenu champion pour agencer trop de mots. 100% indé, tu peux kiffer, y'a pas de sponsor. Je balance la zig gratos pour ceux qui suivent et leurs consorts. Crois pas que j'écris pour me branler sur mes phases après. Je préfère que ce soit l'instru plutôt que la voisine qui se fasse massacrer. Un putain de défouloir dans ma petite vie sans rebondissement. Je m'enferme toute une journée pour me réjouir des cons distants. Et je reste autodidacte, je m'en tape si j'ai l'air outrancier. Faut bien reconnaître que dans vos mégapoles, bah on se fait souvent chier. Voilà d'où naît l'ambition d'écrire sa routine. Souffrance dès ça conçoit le beat et tant mieux si ça se coupille. Bah voilà.